Bonsoir, je pense que nous allons commencer. Donc je vous remercie d'être venus très nombreux pour écouter ce débat sur le thème suivant. Alors j'aime beaucoup la formulation du thème. La tentation génétique, une hérésie. Alors, il va falloir qu'on précise tout ça. Pour débattre de ce thème-là, donc nous avons avec nous, on va commencer en tout seigneur, tout honneur, par la femme du groupe, Jeanne Adebat, qui vient de publier chez Soon dans la collection Syros Eden en sursis. Non, chez Syros dans la collection Soon, je me disais qu'il y avait un truc qui n'était pas tout à fait dans le bon sens. Eden en sursis. Et puis même dans La vieille anglaise et le continent, il y a un petit côté génétique aussi, de toute façon. Hervé Tillman qui vient faire le scientifique encore une fois avec nous. Mais on pourra évoquer quand même un petit peu son œuvre littéraire puisque ça parle de mutation, je crois.
Non, ça parle de croisement.
De croisement, excuse-moi. Bah voilà, tu vois, on a vraiment besoin de scientifiques avec nous. Walter John Williams, donc bon, qui est l'auteur américain que vous connaissez bien, chez qui la thématique de la génétique est tout à fait récurrente, y compris dans son dernier livre publié en France, À valeur de monde. Et enfin, Pierre Bordage, qui est un écrivain français, qui publie beaucoup de livres, et dans lesquels, finalement, ben, il n'y a pas trop de science, et il y a surtout de la génétique quand il n'y a pas de science. C'est peut-être à Pierre que je vais poser la question, en quoi la génétique pourrait être une hérésie ?
Putain, mais on commence par répondre à la question, alors que normalement, c'est à la fin du...
D'accord. Très bien. Bon, ben,
bon, donc, c'est une hérésie.
T'as résolu ton problème,
donc,
tu sais à quelle heure tu vas manger ?
On peut tous aller boire un coup maintenant au bar, parce que c'est une hérésie totale. Enfin bon, bref, non... Moi, j'ai eu contact avec la biotechnologie, avec le livre de Jérémy Rifkin, qui s'appelle Le siècle biotech, qui parle un peu des avancées de la biotechnologie, ses dérives possibles, et ça m'a inspiré directement trois livres, dont Les fables de l'impur, qui est un essai sur la chimère, c'est-à-dire le croisement dont parlait Hervé. J'espère que je ne fais pas de bêtises, Hervé. Hein, Donc ce sont la chimère, c'est qu'on prend des gènes humains qu'on mélange à des gènes animaux, et donc ça fait des nouvelles créatures. Et j'avais rencontré d'ailleurs à cette occasion une professeure à l'université de Nantes qui faisait des expériences au stade embryonnaire de mélange génétique. Et je lui ai posé la question, si vous aviez l'occasion de voir votre créature, est-ce que vous aimeriez la voir ? Elle m'a dit, bah oui, bien sûr. Donc j'ai fait, en tant qu'auteur de science, comme c'est interdit en France pour des raisons éthiques, j'ai pu user de mon privilège d'auteur de science-fiction pour pousser l'expérience au bout, donc créer des chimères et faire un monde de chimères où l'homme avait disparu. Ensuite, je me suis intéressé à la biotechnologie pour le plan économique et industriel avec le brevetage génétique, le brevetage du vivant, dans une série scientifique qui s'appelait Quark Noir. Voilà. Et puis, je me suis ainsi un peu intéressé au clonage dans un livre qui s'appelle Absalon, où il y a une église qui s'appelle Monoclonal et dont les représentants sont des moncles, des monoclonaux, donc des moncles. Donc voilà, la biotechnologie m'interpelle énormément parce que ce sont des leviers extrêmement petits et extrêmement puissants qui, mélangés aux leviers informatiques, ont donné des possibilités assez inouïes. Et elle nous donne probablement, dans un avenir relativement proche, la possibilité prolonger la vie, accélérer, augmenter la vie, etc. Et elle me semble... Alors, une hérésie, oui, parce que ça me... c'est juste pour provoquer un peu. Hein. Une hérésie, oui, parce qu'elle me semble aller contre... une véritable recherche de l'humanité. C'est-à-dire que c'est une sorte de fuite en avant qui, comme les baguettes des fées dans l'ancien temps, enfin dans les légendes, ou tout ça, nous donne la possibilité de réaliser nos rêves. Et le rêve d'immortalité est l'un des rêves les plus partagés par les êtres humains, parce que la mort nous fait peur, tout simplement. Et je pense que cette tentation-là nous fait courir vers une sorte d'ailleurs idéalisé qui risque de se révéler catastrophique.
Peut-être céder la parole tout de suite à Hervé. J'ai pas voulu commencer par lui.
Non, mais bon, on va pas recommencer le même débat qu'on a eu hier, mais il faut pas confondre la science et ce qu'on en fait. Quoi. Là, on dit la génétique une hérésie. Non, la génétique c'est une science. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, là, il faut faire attention. Bien sûr, non, je suis complètement. Je pense qu'on est d'accord avec Pierre sur un certain nombre de choses, notamment sur le brevetage du vivant, que je trouve une aberration totale. Parce que de toute façon, on partage plus de 90% de nos gènes avec les grands singes, et que c'est breveter un gène humain, ça veut dire breveter un gène de chimpanzé, donc ça n'a absolument aucun sens. Et c'est bon, c'est comme d'habitude, quoi. C'est une façon de faire de l'argent avec, avec la biotechnologie. Maintenant, on verra si on rebondit sur d'autres choses, sur les chimères, sur les hybrides interspécifiques ou sur le clonage. J'aurais peut-être des trucs à raconter, mais il faut peut-être laisser s'exprimer les gens.
Oui. Peut-être céder la parole à Jeanne tout de suite, parce que c'est vrai que toi, tu commences juste ta carrière d'écrivain, et là, dans tes deux textes qui ont été publiés, ça parle toujours de génétique, en fait.
Oui, mais j'ai triché. D'abord, pour le premier, je me suis fait aider par Hervé.
Ah.
Parce que j'avais un début de solution pour mon plan machiavélique pour sauver les baleines, et puis ça fonctionnait pas, donc Hervé m'a donné le truc du prion. Voilà. En revanche, pour la vieille anglaise, pour Eden, un truc qui m'avait révolté, c'est l'histoire d'un rosier qui était dans le jardin de ma grand-mère et que je n'ai pas le droit de greffer parce que il n'est pas dans je ne sais quelle bibliothèque de grains ou de plants. J'ai pas le droit de le vendre, enfin, parce qu'il est ancien et que il y a juste une série de graines qu'on a le droit de commercialiser. Il y a eu des scandales après ultérieurs avec des histoires de tomates, enfin. Et donc, tu remettras ça dans l'ordre. Hein, c'est un peu en vrac. Hein, moi, je suis jamais qu'écrivain. Je prends des idées et puis après, j'en fais des histoires. Donc, à la fin des fins, je fais lire à des spécialistes pour voir si j'ai pas dit trop de conneries. Et Hervé est là pour me dire que j'en dis quand même. Mais dans Eden, effectivement, j'ai inventé. Il y a une multispatiale qui brevette tous les végétaux, tous les animaux sur lesquels ils tombent, et ils revendent des mules. C'est-à-dire des exemplaires qui ne sont pas voués à se reproduire ensuite. Donc on achète systématiquement à ces entreprises les animaux domestiques, les légumes, etc. Voilà. Je trouve ça horrible, mais c'est vers ça qu'on va, je crois.
Bon, là, effectivement, au niveau de la génétique végétale, il y a eu un certain nombre de choses qui ressemblent très exactement à ce que tu racontes, notamment quand on a fait des hybrides entre différentes variétés de maïs, par exemple. Les lignées de maïs ont un certain potentiel de production, mais les hybrides sont beaucoup plus productifs. C'est le principe de la vigueur hybride que chacun connaît. Donc quand on fabrique un hybride, on prend une lignée qu'on croise avec une autre et on a un hybride. Seulement cet hybride, sa descendance ne va pas être égale à ce qu'il est. Ça va être la ségrégation de ce qu'il est. Donc pour refaire une même plante aussi productive, il faut refaire l'hybride. Donc il faut dire que chaque année, on doit racheter les semences pour avoir cette potentialité de rendement. Bon, quant à tes histoires de rosiers, j'ai pas très bien compris. Alors, il y a...
Lorsque je serai plus clair demain, par exemple.
Si tu veux, ou plus tard ce soir, mais...
Bon,
non, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de variétés qui ont été définies. Il y a un catalogue des variétés de plantes, et que ce soit pour les plantes ornementales comme pour les plantes alimentaires, pour les légumes, pour tout ça, il y a des variétés qui sont sur des catalogues. Et donc, on achète les variétés qui sont sur les catalogues. Et comme d'habitude, les industries semencières ont interdit aux petits fermiers de faire leurs propres semences de ferme ou de faire leurs propres graines avec des variétés anciennes ou des choses comme ça. Donc, c'est peut-être, ça doit être quelque chose qui ressemble à ça dont tu me parles. Alors, effectivement, les variétés de rosiers anciennes, c'est assez difficile à récupérer. Donc, peut-être qu'ils auraient préféré que venir eux chercher une bouture de ton rosier pour le mettre dans leur collection et ensuite éventuellement les multiplier et les vendre.
Mais non, parce que mon rosier, en fait, il a une très sale gueule, mais il sent absolument délicieusement bon. Il fait des roses qui deviennent très 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 très, très vite fripées, etc. Mais moi, ce que j'aime chez la rose, c'est le parfum. Voilà. Donc il me l'achèterait pas, tu vois. Il ferait des espèces de choux en forme de rose. qui ne sentent rien.
Mais je pense
c'est
que
juste tu, l'horreur.
Tu peux très bien le bouturer toi-même, je pense que personne ne te dira rien.
C'est ce que j'ai fait.
Bon.
I think the situation is regrettable, but probably temporary, simply because only big business and government now have the money necessary to perform these sorts of experiments. The cost of genetic research is declining quite rapidly. You can sequence DNA very cheaply now. And so I think once these techniques are essentially popularized, once anybody of reasonable means can begin to slice and chop their own DNA, then these unreasonable monopolies are going to disappear fairly quickly.
C'est une situation qui est effectivement regrettable, mais que le Walter John Williams estime temporaire. Parce que pour le moment, seuls les gouvernements et les grandes entreprises ont les finances nécessaires pour procéder à ce genre de travaux, faire du séquençage, bricoler avec les gènes, mais très très vite, ça va être à la portée de tout le monde. Et donc bientôt, n'importe qui peut bricoler les gènes arrivera à produire des nouvelles variétés, arrivera à faire ce qu'il veut.
Making it short.
Hervé Tillemont est en train de s'étouffer. Y a-t-il un médecin dans la salle ?
Non, je ne m'étouffe pas du tout, mais effectivement, on peut... Je pense que bientôt, dans sa cuisine, on pourra effectivement séquencer son ADN, mais le problème n'est pas de savoir ce qui est écrit dessus, c'est le problème de savoir après comment réintroduire éventuellement des gènes dans un autre organisme, comment modifier l'expression des gènes. Là, ça va être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, le séquençage lui-même et savoir qu'on a le gène B1412 à l'état A ou B, ça va être passionnant pour tout le monde, mais c'est pas... Je ne pense pas qu'avec ça, on fera de la manipulation génétique. Pour l'instant, on fera de la reconnaissance. Bon, ça peut être dangereux aussi, hein, parce que pour d'autres raisons.
Ben, je pense que la question a été posée par Huxley déjà avec le meilleur des mondes, hein, savoir ce pouvoir génétique et de savoir ce qu'on fait. Alors, tu as raison, ce n'est pas la génétique qui est une hérésie, c'est la tentation ou l'utilisation de la génétique qui peut devenir une hérésie. Si on donne aux gens la possibilité de choisir la couleur des yeux de leurs enfants, les cheveux de leurs enfants, la peau de leurs enfants... Donc si on essaie d'éliminer toute la partie hasardeuse de la vie humaine, alors je pense qu'on va vers de sacrés problèmes. Parce que tu parlais d'expression des gènes, c'est la mutilation, je crois. C'est-à-dire on ne sait pas quand les gènes s'expriment. C'est ce que m'avait expliqué cette professeure qui faisait les mélanges de gènes au stade embryonnaire. Elle disait, mais on étudie ça parce qu'on ne sait pas quand ça se met en route ni comment ça marche, vraiment. Donc il y a forcément une part très hasardeuse là-dedans qui sera totalement immaîtrisable. Et quelque part, j'ai envie de dire que c'est tant mieux, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a... On ne peut pas, ce rêve de démiurge total, c'est-à-dire de maîtriser absolument tous les paramètres du vivant, à mon avis, est un rêve absurde. Et voilà.
Non, je suis d'accord avec toi. Puis pour rebondir un peu là-dessus, j'ai une jolie histoire à vous raconter, parce que c'est la fin de la journée. C'est l'histoire des chats tricolores. Alors, vous savez que les chats tricolores sont des chattes. Alors, si vous ne savez pas pourquoi, c'est parce que sur les deux chromosomes X du chat... Il y a deux allèles d'un même gène, un qui va coder pour une couleur rousse et l'autre pour une couleur noire. Je simplifie au maximum. Ce qui fait que pour être à la fois blanc, rouge et noir, il faut être une femelle, parce que chez toutes les femelles de mammifères, en général, il n'y a qu'un seul des deux X qui s'exprime. Et il s'exprime aléatoirement selon les cellules. Autrement dit, on est incapable de prévoir le pattern rouge-noir. Alors, maintenant, on va pouvoir faire des clones d'animaux familiers. C'est quelque chose qui est parti aux États-Unis. Donc, vous avez un animal que vous adorez, Minou ou Médor, et vous voulez le perpétuer, donc vous voulez le cloner. Mais si vous avez une chatte tricolore et que vous la clonez, cette chatte ne ressemblera jamais à sa mère parce que le pattern sera complètement aléatoire de taches rouges et de taches noires sur la chatte en question. Je trouve que c'est une jolie histoire qui va dans ton sens. Ça veut dire qu'on aura beau en savoir beaucoup, la vie et la biologie sera toujours plus forte que ce que l'homme pourra imaginer en faire.
Moi, je repose la question un peu différemment par rapport à tout à l'heure. La tentation génétique en question, pourquoi considérez-vous que c'est une hérésie ? Est-ce que ça pourrait, à l'inverse, ne pas être un bien pour l'humanité ? On va peut-être demander à Jeanne et puis à Walter après.
Moi, j'ai vraiment du mal avec le terme hérésie. Là, déjà, le mélange me paraît...
Oui, parce qu'il y a une connotation un peu religieuse.
Complètement religieuse. Il n'y a que dans les religions qu'il y a des hérésies. Personnellement, j'attends énormément de la génétique pour le bien-être de l'humanité. Évidemment, avec les guillemets qui vont à côté, c'est-à-dire que ben, on se connaît quand même, on va toujours trop loin, souvent. On a déjà eu une partie de ce débat avec Gérard Klein hier sur la perfection, l'homme augmenté, l'homme corrigé, etc. Cela étant, je n'arrive pas, parce que je suis quelqu'un qui est né avec la SF campbellienne, à penser que le progrès, ça peut être mal, même en génétique. Voilà.
On va avoir l'avis de Walter.
Yeah, I think genetic technology is like any other technology, it is a two-edged sword. It can be used to improve our situations, overcome genetic diseases, but also consider biotechnology in the hands of terrorists. They could craft a disease that could be a threat to all of mankind, or to specific examples of mankind, to specific ethnic groups. Once those markers for specific ethnic groups are understood, you could try to create a disease that would do away with, say, all Africans, all Chinese, all Japanese.
Il pense que la génétique est une arme à double tranchant, comme toutes les avancées scientifiques, parce que, d'une part, ça peut nous aider à corriger des défauts par la thérapie génique, mais ça peut aussi donner naissance à des armes terrifiantes. Bon, par exemple, éliminer un groupe ethnique, une fois qu'on aura identifié les marqueurs génétiques, une arme qui soit spécifiquement conçue pour s'attaquer aux Africains, ou aux Juifs, ou aux Chinois, etc. Donc c'est une arme à double tranchant. You can continue.
Likewise, this sort of technology in the hands of a totalitarian government could be very dangerous. We've, you know, in recent history, we've had the example of a government that tried to breed a super race. If this were possible through genetic technology, that would be even more horrifying.
De la même façon. Une telle connaissance scientifique, une telle technologie dans les mains d'un gouvernement totalitaire pourrait être très dangereuse. On a déjà eu dans le passé affaire à un régime totalitaire dont le but était de créer une race supérieure. Donc avec les progrès de la science, dans les mains d'une idéologie totalitaire, ça pourrait donner encore des choses beaucoup plus impressionnantes.
Bon, oui, il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est qu'il est impossible de définir des races humaines, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on a démontré déjà depuis longtemps que l'ensemble des marqueurs qui sont peut-être plus souvent et plus fréquents dans des gens qui sont par exemple tout noirs que dans des gens qui sont tout blancs, il y a une telle gradation entre toutes les ethnies possibles ou les gens qu'il est impossible de mettre la limite quelque part. Autrement dit, on ne peut pas dire les caucasoïdes se définissent par tel et tel et tel et tel allèle, et les mongoloïdes par tel et tel et tel allèle de tel gène. C'est pas vrai, c'est juste statistique. Il y a un tel mélange des populations humaines depuis le début de l'humanité qu'il est absolument impossible de définir des extrêmes comme ça serait souhaitable si quelqu'un avait l'idée un jour de faire un truc pour éliminer tous les gens qui sont pas de la même couleur que lui. Donc c'est une absurdité, heureusement, c'est encore...
I agree that it's very difficult to define race, especially genetically, but it's also very difficult to explain these facts to a racist politician.
Oui, c'est effectivement, c'est très difficile de le faire, comme dit Hervé, et tant mieux quand on considère le mal que peuvent faire les politiciens racistes.
Cela dit, j'ai lu un truc rigolo dans Pour la Science il n'y a pas si longtemps, une histoire de médicaments commercialisés uniquement pour les Afro-Américains. Qui souffrirait statistiquement plus de troubles cardiovasculaires, et ça n'a pas fonctionné.
Bizarre,
bizarrement.
Non,
Il peut y avoir des traitements particuliers pour des cheveux, disons, un peu plus crépus que d'habitude. Ça, on peut comprendre qu'on fasse des crèmes qui aident à s'aplatir les cheveux ou qu'on en fasse d'autres
ça
pour que ça devienne plus frisé. Et ça, on imagine que ça marche. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la génétique. Quoi.
Bah oui, mais ça, ils ont essayé de le vendre et ça n'a pas marché.
Bon, mais il faut quand même voir un peu le côté positif. Je crois que tout le monde a entendu parler de la thérapie génique, ce qui va quand même améliorer la vie d'un certain nombre de gens qui souffrent de maladies génétiques incurables. Si on arrive à maîtriser correctement la technologie et on commence à le faire, ça peut quand même rendre service à un certain nombre de gens.
En fait, la tentation génétique au niveau individuel, c'est forcément bénéfique, j'ai l'impression. C'est dès qu'on passe au niveau sociétal que ça devient très inquiétant.
Bon, d'un autre côté, si on veut... Excuse-moi, je te repasse la parole. Si on veut fabriquer un homme meilleur, comme pouvaient l'imaginer les nazis, il faut quand même se rendre compte du temps de génération de l'homme. Parce qu'il faut faire des croisements, il faut en faire beaucoup pour améliorer une variété, que ce soit une variété animale ou végétale. On imagine que pour améliorer l'homme, il va falloir aussi pas mal de générations. Et c'est absurde, quoi. On ne peut pas imaginer... Enfin, je crois que ça n'a pas de sens, même pratique, quoi.
Bon, je vais revenir à ce que disait Jeanne tout à l'heure, mais pour moi, le mot hérésie est un bon mot. Un bon mot, pourquoi ?
Surprenant chez un mystique tel que toi.
Non. Pourquoi ? Parce que je pense que la science a pris le relais des religions dans le sens où elle fait, bizarrement, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que les religions font dépendre le bonheur de l'humain d'un intervenant extérieur qui s'appelle un dieu. C'est-à-dire, si Dieu est bien disposé à votre égard, vous allez pouvoir peut-être être heureux. S'il ne l'est pas, vous allez en chier grave. Voilà. Et donc, pour moi, la science est pareil. C'est faire dépendre de l'extérieur, c'est-à-dire d'une implantation génétique ou d'un programme de thérapie génique. On fait comme vous allez enfin accéder au bonheur grâce à l'utilisation des gènes. C'est la même erreur. Et c'est pour ça que c'est une hérésie, c'est que ça ne donnera jamais le bonheur. Ça pourra améliorer quelque chose, mais ça peut tuer les différences, et on arrive très très vite à l'eugénisme, c'est-à-dire que moi je ne supporte pas que le monsieur il est un pied boiteux, je ne supporte pas ceci, je ne supporte pas cela. Ça veut dire qu'on va devenir une sorte d'être immortel ou à tendance immortelle, parfait, avec des traits parfaits, des yeux parfaits, un corps parfait. Et on va tous s'emmerder, mais grave, quoi, parce qu'on ne pourra plus expérimenter la diversité humaine. Et je pense que ça va vers... Et regarde ce que font les fabricants d'OGM, par rapport au riz, par exemple, où il y a je ne sais plus combien de variétés indiennes de riz, hein, il y en a 5000, je crois, à l'origine, et ils l'ont réduit à 5. Bon, les Indiens ont refusé, et se sont opposés totalement à ce que Monsanto, pour ne pas les nommer, brevette le riz, basmati, qu'ils ont appelé Carnati.
On aurait deviné, hein.
Ils ont appelé Carnati, tout simplement parce qu'ils voulaient réduire, en faisant des riz supérieurs, soi-disant sur le plan du rendement, ils voulaient réduire la biodiversité agricole de l'Inde. Et c'est la même chose pour les humains, c'est-à-dire que si vous commencez à réduire les différences, vous allez réduire la biodiversité humaine et vous allez avoir une sorte d'individu, une sorte d'individu multiplié à l'infini qui n'aura aucun intérêt l'un pour l'autre. Voyez.
Oui, non, je vois ce que tu veux dire.
C'est en ça que je pense qu'il y a une tentation hérétique de l'utilisation de la biotechnologie.
On n'est pas dans la même échelle de temps, hein, quand on parle d'OGM et quand on parle d'améliorer la race humaine. Je veux dire, c'est pas du tout la même échelle de temps. Je pense que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et que je répète. Bon, et puis Monsanto, ils réduisent la diversité, mais c'est pas parce qu'ils veulent la réduire, c'est juste parce que c'est les conséquences de ce genre de commerce, quoi. Imposer des variétés qu'ils ont développées eux, qui résistent à tel insecticide, ce qui fait qu'ils sont obligés d'acheter l'insecticide en plus, enfin de fongicide, n'importe quoi, en plus de la variété, ce qui fait que tous les paysans indiens vont cultiver ce truc et que les autres variétés, elles, vont crever. Donc c'est un effet indirect sur la diversité qui est absolument indispensable à tout généticien. Cela dit,
moi, j'appelle pas ça de l'hérésie, j'appelle ça de la politique, pas la plus jolie, mais de la politique.
Moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Walter John Williams sur ce que vient de dire Pierre Bordage. En l'occurrence, quand tu parlais de l'affaiblissement de la biodiversité, de l'immortalité et de l'ennui, parce qu'il me semble qu'on peut finalement parler de ton roman Aristoï de cette manière. Traduit par Jean-Daniel Brecht, d'ailleurs.
Well, I think there are two separate issues. One issue is the elimination of genetic defects, which would be enormously beneficial throughout the world.
Il y a deux questions dans ce que tu viens de dire. Donc le premier point abordé, c'est effectivement éliminer les tares génétiques, ce qui serait un bénéfice pour tous.
And the other issue is improving the basic human stock. And I think if you left this up to, oh, say, the average American family as to what they wanted their child to be, their child would be male, he would be blonde, he would have blue eyes, and his name would be Joshua or Jason.
Et le deuxième point, c'est, entre guillemets, améliorer le patrimoine génétique, améliorer l'être humain. Et donc, si on laissait faire les familles américaines, elles engendreraient tous des enfants blonds qui s'appelleraient, blonds aux yeux bleus, qui s'appelleraient Jason ou Joshua, et puis ils seraient tous les mêmes, effectivement.
Oui, c'est, je pense là où la science prend la relève de la religion, c'est-à-dire répond aux aspirations profonde des êtres, qui est d'accéder à une sorte de paradis hypothétique, si par la pratique religieuse, bon, après sa mort, on sera soit au paradis, soit en enfer. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à une sorte de mieux-être, avec la biotechnologie. Évidemment, la génétique en soi, c'est pas ni une hérésie ni quoi que ce soit, c'est sûr, c'est une science simplement, mais c'est l'utilisation qu'on va en faire. Et si on ne répond pas à cette question fondamentale qui agite les êtres humains depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes sans cesse à la recherche d'un ailleurs qui n'existe pas et que vous niez votre existence, que vous niez votre souffrance, qu'est-ce qui va se passer avec cette hérésie, cette tentation génétique? Ben, vous allez simplement repousser le problème un peu plus loin. Certes des améliorations physiques et tout, mais à l'intérieur on sera toujours dans les mêmes mécanismes auxquels n'ont jamais pu répondre les religions et auxquels nous pourrons jamais répondre la science, enfin à mon avis, hein, ce n'est qu'une opinion, ceci n'est pas un dogme, quoique.
Non, mais je pense qu'il y a quand même deux niveaux, parce qu'effectivement la religion ça répond pas au bonheur sur Terre, ça répond à la possibilité d'avoir du bonheur ailleurs, puisque la vie est une telle merde aujourd'hui qu'au moins ils peuvent rêver que dans l'au-delà, quand ils seront morts, ça ira mieux.
C'est pour vrai, moi, qu'il y a 150 ça, la religion, millions d'années dans les cavernes, c'était l'extase.
Bon, tandis que la génétique...
Non, mais... Georges, s'il te plaît, tu sais reconnaître une métaphore quand tu la vois.
Bon, et la génétique et la thérapie génétique qui peut effectivement améliorer un certain nombre de choses chez des gens, c'est pour tout de suite, quoi. C'est pas pour la prochaine vie.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça repose sur une négation du réel.
Et c'est autre chose, oui.
Tu vois, je veux dire, ça repose sur une négation de ce que c'est l'être humain actuellement. C'est-à-dire que maintenant, on est un être humain comme ça, et on dit non, ce n'est pas ça un être humain, ça doit être quelque chose d'autre. Et là, je pense qu'on est dans le processus religieux.
C'est bizarre parce que moi, je vois juste la fin de la souffrance. Par exemple, on parlait hier de mucoviscidose. Je sais que c'est juste un beau rêve qu'on guérisse la mucoviscidose, puisque on me l'a dit avec les poings serrés et toutes vertes. Mais bon, je trouve que c'est un joli rêve que des enfants redeviennent voyants, comme je l'ai vu à la télé il n'y a pas très longtemps grâce à la thérapie génique. Je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est pas un miracle de Dieu, mais c'est juste un putain de miracle. Et ça vaut le coup. Moi,
c'est de la médecine, ça. C'est pas,
c'est pas, bah oui, mais c'est de la génétique.
C'est une utilisation médicale des avancées de la génétique, oui, mais moi je trouve pas ça, je trouve pas que ce soit miraculeux. Ça, c'est certainement le ressenti des gens qui sont guéris ou de leurs proches.
Mais c'est ça que je dis depuis le début. I
think if all genetic defects are dealt with, there will still be plenty of misery and unhappiness left in the world.
Même si les défauts dus à la génétique sont guéris, il restera quand même pas mal de misère dans le monde.
Oui. Et tout le monde n'y aura pas accès à la correction génétique. Et tout le monde n'y a pas accès déjà aux antibiotiques.
Yes. Well, I think we should also consider that probably the great laboratories for genetic therapy and genetic improvement isn't going to be in the West. It's going to be in the Third World. I think if you see a technician in a white coat going into some village in Central America or in Africa or in China and saying, we would like to make your children healthy and superior, I think they're going to get a lot of people who are going to be willing to take them up on that offer.
Il ne faut pas oublier non plus que la plupart de ces avancées profitent aux pays occidentaux, aux pays riches. Effectivement des scientifiques se déplaçaient dans les pays du tiers-monde, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en disant je veux améliorer le sort de vos enfants, je veux les guérir, etc., tout le monde serait prêt à les prendre au mot, quoi. Mais ce n'est pas ça qui se passe.
C'est là qu'on revient à la politique et plus à l'hérésie.
Dans l'état actuel de la génétique, c'est quoi les perspectives? Les progressions qui seraient envisagées, envisageables?
Oui, enfin, c'est une question un peu difficile. Moi, je suis un généticien des plantes, donc je ne suis pas du tout médecin ni spécialiste en génétique humaine. C'est vrai que les gens qui font de la génétique animale ont un avantage sur nous qui occupons des plantes, parce qu'on peut remplacer un allèle par un autre, c'est-à-dire qu'on peut faire de la transformation génétique de façon relativement simple chez les animaux, chose qu'on ne peut pas faire chez les plantes. Par exemple, quand on veut remplacer l'allèle d'un gène par un autre chez un animal, c'est très facile. On fait ça facilement chez les souris et c'est en train de se faire chez l'homme avec des vecteurs qu'on arrive à maîtriser aujourd'hui, tandis que quand on veut faire ça chez les plantes, on n'y arrive pas. Donc vous dire quel est l'avenir de la thérapie génique chez l'homme, moi je ne peux pas répondre à cette question. Mais à chaque fois, ça sera très difficile parce qu'on va pouvoir réparer l'allèle d'un gène dont on sait qu'il va s'exprimer spécifiquement dans la cornée parce que ça va être le gène de la cornée. C'est un truc comme ça qu'ils ont modifié en injectant des trucs juste là, quoi. Mais ça c'est de la thérapie sur des êtres différenciés. Maintenant, si on va vers l'amélioration des gamètes, c'est-à-dire des choses qui vont être transmises à la génération suivante, et là où ça devient carrément dangereux, hein. Et là c'est très grave. Et ça, je ne sais pas si on est capable de faire ça aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à cette question, j'en sais rien.
Et est-ce que tous les mots qui ont été employés en tout début du débat par Pierre Bordage, en l'occurrence les chimères et compagnie, les croisements, enfin, c'est toi qui as parlé de croisements, est-ce que tout ça c'est envisageable à court, moyen, long terme ou, rassure-nous, fais quelque chose.
Alors, bon, je peux vous rassurer relativement, parce que là, à l'inverse de ce qui se passe chez les animaux, ce qui se passe chez les plantes, c'est beaucoup plus facile de faire des hybrides interspécifiques. Donc ça se pratique assez couramment. Il y a un certain nombre de plantes cultivées qui sont déjà des hybrides interspécifiques. C'est notamment le cas du colza, qui est un croisement naturel entre le chou et la navette. Donc vous avez le génome du chou et le génome de la navette qui, ensemble, font le colza. Bon, en l'occurrence, c'est un hybride allotétraploïde. Je suis désolé d'employer des termes aussi pénibles.
Mais tu es là pour ça.
Ne sois pas grossier.
Mais parce qu'en fait, il peut pas fonctionner à l'état diploïde parce qu'il a, s'il avait un gamète chou et un gamète navet, les deux gamètes ne pourraient pas fonctionner ensemble. On se retrouve dans la position du mulet dont parlait Jeanne au début de cette conversation, c'est-à-dire que le croisement entre l'âne et le cheval n'est pas est stérile, quoi, parce qu'il est incapable de faire fonctionner ensemble ces chromosomes de deux espèces différentes. Mais si vous multipliez par deux tous les chromosomes, à ce moment-là, chacun va se retrouver avec un chromosome avec qui il peut faire de la méiose, et à ce moment-là, vous avez quelque chose de fertile. Donc les hybrides interspécifiques polyploïdes, c'est quelque chose de très courant dans le monde végétal et même dans le monde végétal cultivé. Et alors je me suis permis, puisque chacun fait un peu sa pub, de faire un bouquin là-dessus qui est à ce moment-là appliqué à l'homme et à l'animal, et j'ai imaginé des hybrides interspécifiques entre l'homme et des espèces animales.
Moi, j'aime bien les espèces végétales cultivées, ça laisse entendre qu'il y a des espèces végétales illettrées aussi.
Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux
dire. Est-ce que tu crois qu'il y a des chaînes qui n'ont pas lu La Princesse de Clèves?
Ce serait plutôt des glands alors.
Ah bah oui.
Je tiens à vous remercier de me faciliter la tâche. Très sympa.
Alors le traducteur nous remercie de lui faciliter la tâche parce qu'il est condamné à traduire ça à Walter. Donc je vous propose de garder le silence 2 minutes, on va tendre l'oreille.
Coward.
Somebody give me a gun. I'm going to shoot myself.
Ah bah du coup j'ai perdu le fil.
On en était aux chimères.
On en était aux chimères, ouais. Et est-ce que les chimères vous fascinent, vous? Parce que finalement, à quel degré plutôt les chimères vous fascinent? Elles vous révulsent ou elles vous fascinent? Parce que toi, c'est ce que tu utilises dans la vieille anglaise.
Dans la vieille anglaise, non.
Bon, bah,
mais dans Eden en sursis. Dans Eden en sursis, oui.
Dans Eden en sursis, excuse-moi.
Mais là, j'avoue, je m'en suis servi pour créer Pégase, recréer Pégase. Et c'était juste une terrible tentation, très, très, très hérétique, j'avoue. Ben alors du coup, je l'ai tué en cours de route. Je suis vraiment désolée. Parce que c'est très, très mal de refaire Pégase. Surtout dans un roman de SF, quand votre directeur de collection vous dit « Pas de dragon !»
Enfin, Denis, c'est pas un dragon, c'est un cheval.
Ben justement, c'est pour ça que j'ai triché.
Ah, ouais.
Alors oui, les chimères me fascinent.
Bon, si on, je suis encore vous fatiguer parce que en génétique, les chimères, c'est pas la même chose que des hybrides. Parce qu'il y a plusieurs couches cellulaires qui constituent les gens, plusieurs organes, si vous voulez, plusieurs couches. Et à ce moment-là, si les couches ont des définitions génétiques différentes, des stocks génétiques différents, à ce moment-là, on appelle ça des chimères. Mais elles ne sont pas mélangées dans la même cellule. Si c'est mélangé dans la même cellule, c'est un hybride. Voilà.
I would think that chimeras would be irresistible once you have the technology. Once the technology gets down to the popular level, where a lot of people can use it, I know that they're going to make unicorns. I know they're going to make dragons. I know they're going to make other creatures. Assuming that the popular imagination can be fed this way, I can't see that it will ever that it'll be possible to prevent it.
Dès l'instant que la technologie va devenir à la portée de tous, personne ne pourra résister à la tentation de faire des chimères. Quelqu'un fera forcément des licornes, des dragons et des créatures comme ça. C'est inévitable.
Je crains que les dragons qu'on fera soient plutôt du genre de ceux de Terry Pratchett, là, les dragons ratés du Gai des Orfèvres.
Ah, les dragons des marais.
Qui explosent au bout d'un moment. Mais bon.
Oui, les dragons des marais, c'est très bien ça.
C'est marrant de constater que les chimères, ça a toujours existé dans la mythologie. Tout ça, c'est une vieille création humaine. Parce qu'on a le sphinx, on a le centaure, par exemple.
L'hippogriffe.
Donc on ne fait que re-exprimer un truc qui est vieux comme le monde, hein, qui est le monde des chimères dans les mythologies.
Yes. I draw the line at Smurfs, however.
Cela dit, il ne veut pas entendre parler des Schtroumpfs.
Des petits hommes bleus. Mais les petits hommes verts, on peut.
They're inevitable. I'm sorry.
Cool.
Oui, c'est ça le problème, c'est que
ils sont inévitables aussi.
Oui, à partir du moment où on va maîtriser ça et où ça va devenir de plus en plus simple et abordable par n'importe qui, on risque d'aller vers un grand n'importe quoi, en fait.
Ben après, c'est le grand mystère de l'expression des gènes qui risque de faire un truc assez incontrôlable.
Moi, j'ai
travaillé ça dans Les Derniers Hommes, où il y a une femme qui est victime de transgénose, donc une maladie d'expression des gènes un peu anarchique, donc il lui pousse des trucs en longueur de temps, et ça se déforme, etc. Je ne sais pas si Hervé est d'accord avec ça, mais c'est quand même super difficile de maîtriser l'expression des gènes, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passera après quand on aura des hybrides, des mélanges, que ce sera une sorte de grand foutoir génétique et il en sortira quoi? Et qu'est-ce qu'on pourra reprendre derrière? Est-ce qu'on pourra revenir en arrière? Déjà, on se rend compte que sur les OGM, c'est quand même très difficile d'en faire une revenir en arrière parce qu'ils colonisent tout. Et que même les sociétés qui commercialisent OGM vont réclamer après aux paysans de payer des droits sur les trucs qui ont été colonisés sauvagement. Donc là, on est dans un carrefour extrêmement important, je pense, de l'évolution humaine, parce que encore une fois, ces mini leviers sont multipuissants et donc peuvent changer considérablement tout
et de façon peut-être irréversible. Donc il faut réfléchir, il faut amener sa pierre au débat éthique, son pierre au débat éthique, c'est moi. Et voilà.
Bordage.
Donc ça me paraît important pour que les auteurs de SF prennent ce temps de recul, parce que la commercialisation et la nécessité économique ou l'impératif économique fait qu'on ne prend pas le temps de la réflexion quand on nous impose des semences génétiquement modifiées sans nous demander notre avis, contre l'avis de la population d'ailleurs qui est à 85% contre, ce qui est un déni démocratique total. Donc il y a
pas le premier.
Ouais, c'est pas le premier, mais celui-là est vachement important. Et on est à ce point, à ce carrefour où les enjeux sont extrêmement importants.
On va amener notre Hervé à l'édifice génétique.
non, mais bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on peut effectivement réparer un allèle par un autre. C'est-à-dire que on touche pas au mode d'expression, on touche pas à quand il va s'exprimer, ni pourquoi, ni dans toute la longue complexité de la différenciation cellulaire, parce que vous imaginez bien que dans chaque cellule, moi je recommence ce que j'ai raconté hier, dans chaque cellule on a 2 mètres d'ADN qui sont compactés dans un micromètre, et il faut qu'ils s'expriment, et qu'ils s'expriment au bon moment, et qu'ils n'expriment pas tous ces gènes. Donc à chaque fois il y a une petite fraction de cette information qui va être exprimée. Et la façon dont cette expression est régulée est extrêmement compliquée. On a beaucoup de mal à suivre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de maîtriser. Donc on peut changer une version d'un gène par une autre. C'est ce qu'on fait dans les thérapies géniques actuelles, qui sont des réparations d'un gène dont on sait bien quel est la mauvaise copie et la bonne copie. On remplace la mauvaise par la bonne. Maintenant, quand on va aller plus loin et qu'on va faire d'une part, quand on va essayer de modifier ça sur les gamètes, c'est-à-dire au niveau de la reproduction, c'est-à-dire quelque chose qui va être transmis après dans la descendance, là, ça risque d'être très compliqué. Et le fait de mettre plusieurs gènes différents, c'est-à-dire faire une thérapie multigénique, si on peut dire, ça, c'est pas prêt. À mon avis, c'est pas pour demain. Mais bon, on peut craindre le pire. Hein. Je suis d'accord avec Pierre, tout est possible.
Even Smurfs.
Même les Schtroumpfs.
Bon, on va peut-être céder la parole un peu au public si vous avez des questions à poser ou des envies de préciser des choses. Oui, on va commencer par la demoiselle, on va être galant.
On met 3 micros peut-être.
Vous faites circuler.
Pour moi, la génétique est un concept qui me dérange parce que on parle de faire évoluer l'être humain sur le plan physique, mais pas sur le plan mental. Donc, faut pas se voiler la face. On connaît les êtres humains, on sait que entre les mains de certains, la génétique peut être un outil magnifique de guérison, et entre les mains d'autres, ça peut être une arme de destruction inimaginable. Comme on l'a vu pour le nucléaire, qui peut apporter de l'énergie, l'électricité, le chauffage, et à côté de ça, qui peut détruire des villes entières avec une seule bombe. Donc pour moi, l'être humain n'est pas une race, c'est une race trop jeune pour pouvoir modifier comme ça ces spécimens. Il faudrait d'abord qu'on évolue au niveau mental pour qu'on puisse manipuler une arme aussi destructrice.
Bon, là, tu dis qu'il ne faut pas avoir peur de la science. Hein. Ce dont il faut avoir peur, c'est la façon qu'ont les gens de s'en servir. On est complètement d'accord. Il ne faut pas non plus empêcher le savoir de progresser. Et quant à l'espèce humaine, si elle est trop jeune, c'est possible. Mais pour la faire évoluer, il faudra plusieurs générations. Une génération d'hommes, c'est, je sais pas, c'est au moins 15 ans. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir améliorer l'humanité. Et d'ici là, on aura bien esquinté notre Terre. Et je sais pas combien on a de générations qui restent. Je pense pas qu'on ait le temps d'améliorer l'humanité, même en faisant de l'eugénisme à plein pot. Et puis ça, on sait pas faire, en plus, hein.
Moi, il y a quand même quelque chose qui me titille depuis tout à l'heure. C'est que la science, ce sont les scientifiques qui la font, d'accord. Et en général, ils ont passé un très très long temps à apprendre ce qu'ils savent faire le mieux. Je sais pas comment dire ce que je crois qu'il y a quelque chose qui manque dans la formation de nos grands scientifiques. Les sciences humaines. Voilà. Qu'ils aient un regard, un retour sur leurs travaux, parce que c'est tellement tentant de vouloir trouver la réponse aux questions qu'ils se posent. Et ensuite de refuser de voir ce qu'il y a derrière. Voilà, ce qu'il y a, ce qu'on devrait faire des Léonard de Vinci. Voilà, des gens qui couvrent à la fois des domaines humains et scientifiques. Et ça, la formation de nos chercheurs actuellement, ça n'est pas ça. Ils n'ont pas de recul intellectuel sur ce qu'ils font, en fait. Je ne parle pas pour toi, Hervé,
Oui, d'accord, mais je ne suis pas non plus une exception, parce que je suis dans ce débat et qu'effectivement, il n'y a pas tellement de généticiens dans cette salle. Mais effectivement, je connais un certain nombre de scientifiques qui sont... qui ne vivent que pour le développement de leurs connaissances, et s'ils ont les moyens de faire quelque chose, ils le feront, parce que c'est trop tentant. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y en a des comme ça. Mais je ne pense pas qu'ils le soient tous, heureusement.
Bon, mais même chez les médecins, tu en trouves plein. Alors que leur truc, c'est quand même l'amélioration de la vie de l'individu.
Bon, les médecins, pour moi, ce n'est pas forcément des scientifiques. C'est
plutôt
des artisans ou des artistes. Je pense qu'un bon médecin, c'est avant tout un bon artisan et qui sait bien sentir son malade plus que des connaissances extrêmement pointues. Hein.
On est d'accord, mais Vinclair te dirait qu'ils ne sont pas tous comme ça.
Je pense qu'à partir pour répondre à cette demoiselle, tentative de réponse, parce que je n'ai évidemment pas les solutions, c'est juste des interrogations, c'est que tant qu'on fait dépendre son bonheur ou son évolution ou son bien-être des éléments extérieurs, évidemment qu'on va à la catastrophe, parce que tout le monde va réclamer. Je veux dire, si quelqu'un met en place une possibilité d'eugénisme, évidemment qu'on va réclamer. Tout le monde va réclamer parce qu'ils ont l'impression que leur vie va changer. Et c'est ça le grand drame humain, c'est que dans cette volonté incessante d'améliorer les choses, il y a une négation. Il y a une négation et on s'établit sur une négation. C'est comme si on courait après quelque chose qu'on ne peut jamais attraper. Et entre cette intention, entre cet état et cette intention... Il y a un gouffre, et le gouffre, il s'avance au fur et à mesure, et on ne peut pas le rattraper. Et on sombre toujours dedans, et ça fait énormément de misère, de malheur, tout ça, parce que simplement, on ne sait plus se poser, de dire « qui sommes-nous ?» On ne sait plus, parce qu'on veut toujours être autre chose que ce qu'on est. Et évidemment que, comme on veut être autre chose que ce qu'on est, chacun va se vouloir beau, super performant, super intelligent, séducteur, enfin, tout ce qu'on veut. Et donc se fuira en permanence lui-même. Et c'est un peu ça. Et quand je parlais de religion, c'était un peu ça aussi. C'était aller vers l'être parfait qui n'existe pas. Donc la plupart des religions ont aussi créé cette espèce de mécanisme qui est de projeter vers un idéal qu'on n'atteint pas. Donc un paradis ou quelque chose. Et j'ai l'impression que la science reprend c'est pour ça que j'ai parlé de l'hérésie, que reprend ce mécanisme-là qui est de courir après quelque chose qu'on n'atteindra pas de toute façon. Et donc. Est-ce qu'on est trop jeune? J'en sais rien. Est-ce que l'humanité est trop jeune? C'est simplement un mécanisme de pensée qui se reproduit depuis un certain nombre de millénaires, je pense. Bon, mais il ne faut pas que ça vous...
Oui, donc, il y a une autre question. Ouais.
Merci. Voilà, je voulais réagir par rapport à ce qui était dit un peu, parce que... On parle beaucoup d'eugénisme ou de la tentation génétique comme une réduction possible ou une suppression de diversité. J'ai l'impression, de par notre propre diversité et par le fait qu'on a dit aussi tout à l'heure que forcément quelqu'un créera des dragons, des licornes, c'est une chose que j'ai pas trop de mal à envisager non plus. J'ai l'impression que notre propre diversité actuelle engendrera nécessairement une utilisation très diverse de la génétique et que l'eugénisme pour moi c'est peut-être une utilisation imaginaire à un moment donné où la génétique était un outil peut-être pressenti uniquement et que ça irait peut-être plus au contraire vers la surdiversité plutôt que l'uniformisation.
Alors, l'histoire du riz breveté a démontré exactement l'inverse. On voulait réduire la biodiversité du riz, enfin la diversité de plantes, de graines de riz, pour des raisons simplement économiques. Puis je vous rappelle qu'il y a quand même eu le nazisme pendant la guerre et l'arianisme, enfin, ou la tentation de l'arien, qui est une réduction là, et ça fait que des millions de gens sont morts dans les camps de concentration pour qu'on puisse avoir un être unique qui soit de telle stature et qui ait tel type de physique. Donc il ne faut pas sous-estimer cette réduction de la biodiversité, parce que, encore une fois, c'est que chaque être humain a l'impression que c'est sa propre vérité qui s'exprime et que donc son miroir, il le veut de telle façon, et donc ça exclut tous les autres.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a tous une vision de l'homme unique extrêmement différente, et que du coup l'homme unique vers lequel on va tendre, à partir du moment où l'utilisation de la génétique elle est multiple, c'est-à-dire divers laboratoires appartenant à des origines ethniques différentes ou à des origines folkloriques, je sais pas, différentes, va forcément créer un homme unique, mais très très différent de celui d'à côté.
Là, je vais réagir quand même, parce que jusque-là, j'étais en train de me dire, j'aime bien ce garçon,